Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir, Le Franco, Le Journal de Montréal et Le Soleil. Au programme, qu'a fait le robot Persévérance sur Mars en 2022? Des premières données sur l'instruction en français en milieu minoritaire. La musique d'ici vit un âge de gloire. Et une PME québécoise ouvre une boutique sans employés. Bonne écoute.
Qu'a fait le robot Persévérance sur Mars en 2022? Un texte de Pauline Gravel, paru le 14 janvier 2023 dans Le Devoir. Arrivé sur Mars en février 2021, l'astromobile Persévérance a jusqu'à maintenant exploré en détail le cratère G0 et prélevé des échantillons de roches et de sol de cette région, où la vie aurait vraisemblablement pu prospérer. Par ailleurs, la NASA et l'Agence spatiale européenne planifient la mission Mars Sample Return qui visera à aller chercher ces échantillons et à les rapporter sur Terre. Lorsqu'elle a atterri sur Mars, l'astromobile Persévérance portait à son bord une foreuse et 43 tubes en titane destinés à recueillir des carottes de roches et de sol martien qu'on espère pouvoir analyser plus minutieusement, un jour, dans les laboratoires de pointe de notre planète. Actuellement, 18 des 43 tubes sont déjà remplis et scellés. Parmi ces 18 tubes, un contient de l'air de l'atmosphère martienne, deux autres renferment des échantillons de sable prélevés au sol et 15 comprennent des carottes de roche extraites du cratère G0. L'immense cratère de 49 km de diamètre, qui a été créé sous l'impact d'une météorite, était, il y a 3,5 milliards d'années, rempli d'eau et formait un lac comme on en trouve ici au Canada dans d'anciens cratères de météorites. Le Manicouagan, au Québec, en est un exemple typique. Il y avait un lac dans le cratère avec une rivière venant de l'ouest qui s'y jetait et qui a créé un grand delta. Comme un delta se forme très lentement par le dépôt de couches successives de sédiments, il est donc évident que le lac a été présent pendant très longtemps, précise le Canadien Raymond Francis, directeur adjoint des opérations scientifiques de la mission Persévérance. Quelle a été la durée de la vie de ce lac? Quelles étaient les conditions environnementales à l'époque du lac? Le lac était-il permanent, intermittent, voire saisonnier? Les détails géologiques et géochimiques de nos échantillons nous permettront de comprendre tout cela, affirme M. Francis, qui détient un doctorat en géologie planétaire et génie informatique de l'University of Western Ontario. L'analyse des échantillons prélevés dans le fond du cratère par les instruments à bord de Persévérance a révélé l'année dernière qu'ils sont constitués de roches ignées ou magmatiques qui ont été altérées par l'eau du lac, laquelle a modifié la géochimie et la minéralogie de ces roches, souligne le spécialiste. En 2022, nous avons terminé l'exploration du fond du cratère. Puis, nous avons rejoint le front du delta vers la fin d'avril après une traversée du cratère très rapide, la plus rapide jamais réalisée par une astromobile. Persévérance a parcouru des centaines de mètres par jour grâce à un nouveau logiciel de navigation automatique qui permet d'analyser les photos stéréo de l'environnement, de trouver des routes sûres pour le rover, de planifier le trajet à suivre et de faire cette planification même pendant que les roues du rover tournent. Tout cela est possible grâce au fait que Persévérance est équipée d'un ordinateur plus puissant que celui dont étaient dotées les deux astromobiles précédentes. Ce système de navigation automatique, nommé Autonav, est le plus avancé jamais utilisé sur une autre planète, soutient M. Francis, depuis le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. À la recherche de traces de vie. Persévérance a donc commencé l'exploration du delta en 2022 et a prélevé quelques échantillons de la portion qui se termine dans le cratère. L'astromobile entamera une nouvelle campagne d'exploration et de prélèvement à la surface du delta, qui est un terrain très compliqué créée par la rivière qui a creusé une multitude de sillons différents. Ce sera très intéressant pour les scientifiques parce qu'on verra de quels matériaux se compose le delta et on pourra ainsi déterminer si sa formation s'est déroulée en un seul long événement ou en plusieurs phases successives, signale M. Francis. Le delta est un bon endroit pour chercher des traces de vie ancienne sur Mars parce que le dépôt de couches fines de sédiments lors de sa formation permet de bien préserver les traces physiques et chimiques de vie, dit-il. Les scientifiques ne s'attendent pas à trouver des coquilles de mollusques comme fossiles, mais plutôt des couches de stromatolites qui sont formées par des bactéries. Les traces chimiques de vie devraient, quant à elles, se présenter sous forme d'un enrichissement de certains isotopes de carbone, de potassium et d'oxygène, notamment, qui sont abondamment utilisés par les êtres vivants. L'hélicoptère Ingenuity, qui a été mis au point et piloté au début de la mission Mars 2020 par l'ingénieur Farah Alibé, est désormais employé pour prospecter le terrain avant d'y conduire l'astromobile. Cela nous permet de déterminer les endroits du delta qui seraient les plus intéressants à explorer avec persévérance, précise M. Francis. Actuellement, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord de Mars où sont situés le cratère G0 et son delta. Or, l'hélicoptère n'a pas été conçu pour être en marche durant cette saison. Il a donc fallu changer le logiciel et aussi faire tourner les hélices plus vite parce que l'atmosphère est encore plus ténue l'hiver. De plus, tous ces algorithmes de navigation supposent que le sol est plat. Ce sera donc un défi de gravir le delta qui, en plus, présente beaucoup de relief, souligne M. Francis. Vous entendez, qu'a fait le robot Persévérance sur Mars en 2022, texte de Pauline Gravel, paru le 14 janvier 2023 dans Le Devoir. Les échantillons. Avant de procéder au prélèvement d'un échantillon de sol ou de roche, les instruments à bord de l'astromobile effectuent des analyses du terrain qui aideront à choisir le lieu idéal pour forer et extraire du matériel martien. Persévérance est en effet équipée de caméras multispectrales, de spectromètres en mode télédétection et de spectromètres montés sur son bras robotique qui permettent des mesures très rapprochées de la cible à l'aide de rayons X, ultraviolets et infrarouges. En 2021 et 2022, presque tous les échantillons ont été prélevés en double. On prenait deux échantillons de la même roche à quelques centimètres l'un de l'autre. Ce double d'échantillon représente une sauvegarde au cas où Persévérance ne fonctionnerait plus au moment où on ira chercher les échantillons pour les rapporter sur Terre, indique M. Francis. La NASA et l'Agence spatiale européenne préparent actuellement la mission Mars Sample Return, MSR, qui prévoit qu'un atterrisseur se posera sur la planète rouge en 2031 pour récupérer les échantillons. Comme cet atterrisseur ne sera pas mobile, Persévérance viendra à sa rencontre et lui transmettra les tubes d'échantillons qu'elle aura conservés en son sein à l'aide de son bras robotique. Mais comme cette manœuvre n'aura lieu que dans près d'une décennie, il se peut que les systèmes mécaniques et robotiques de l'astromobile soient devenus défectueux et incapables de livrer les échantillons au MSR, fait remarquer M. Francis. Deux plans de rechange ont donc été prévus si de tels ennuis techniques surviennent. Si, dans quelques années, on se rend compte que le système de persévérance qui fait le transfert mécanique commence à avoir des problèmes, on pourra prendre la décision de lâcher tous les tubes qu'il contient sur le sol martien pour qu'ils soient ramassés lors de la mission MSR par deux petits hélicoptères robotisés que l'atterrisseur apportera avec lui, explique M. Francis. Si, encore pire, Persévérance est victime d'une défaillance majeure qui l'empêche de relâcher les échantillons qu'elle contient par terre, ces derniers seront perdus à jamais. C'est donc en prévision d'une telle éventualité qu'on a recueilli certains échantillons en double, que l'on dépose sur le sol martien, où ils seraient récupérés par les deux hélicoptères du MSR. Cinq autres tubes seront aussi abandonnés sur le sol, chacun à un endroit qui est clairement documenté et archivé. Au moment où l'astromobile relâche un tube, une caméra située au bout de son bras robotique regarde sous l'engin pour vérifier que le tube est bien tombé sur le sol et qu'il n'a pas roulé dans les ornières des roues de persévérance où il pourrait être écrasé. On prévoit de laisser à la surface de Mars 10 tubes contenant une copie de 10 échantillons différents. L'astromobile conservera dans son sein les 33 autres tubes, dont 5 seront des témoins, qui permettront de vérifier le niveau de propreté et de contamination du système mécanique de prélèvement, jusqu'en 2031, moment où, si tout se passe bien, elle les transmettra à l'atterrisseur MSR pour qu'il soit envoyé sur Terre. Vous venez d'entendre un texte de Pauline Gravel, paru le 14 janvier 2023 dans Le Devoir. Des premières données sur l'instruction en français en milieu minoritaire. Un texte de Inès Lombardo, paru le 9 décembre 2022 dans le journal Le Franco. Les chiffres du dernier recensement présenté mercredi par Statistique Canada révèlent que 64,7% des enfants d'ayant droit ont fréquenté une école de langue française hors Québec. Plusieurs facteurs pourraient expliquer que l'autre tiers des enfants admissibles n'aient pas été inscrits dans une école francophone. En 2021, 292 385 enfants admissibles à une éducation en français sur 452 110 ont fréquenté ou fréquentent une école de langue française minoritaire. Au pays, quelque 10,5% des enfants sont admissibles à une instruction en français en milieu minoritaire, un chiffre intéressant à la grandeur du Canada, remarque Michel Landry, professeur agrégé de sociologie à l'Université de Moncton. Toutefois, la professeure trouve que le taux de fréquentation des écoles en français dans certaines provinces est inquiétant. Selon elle, il fallait s'attendre au taux de 80,6% au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue. Mais le taux de 49,6% en Alberta inquiète la professeure, car ce pourcentage inclut des gens qui ont fréquenté ces écoles françaises. Ils y sont allés, mais pas nécessairement pendant toute leur scolarité. Les taux de fréquentation les moins élevés se retrouvent ensuite en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve et Labrador, soit respectivement 55,7% et 54,2%. Statistique Canada indique que certains facteurs peuvent influencer sur ces taux de fréquentation, comme la transmission de la langue. Hors Québec, la fréquentation des écoles de langue française peut être plus faible, car les écoles de langue anglaise offrent des programmes d'immersion en français. D'ailleurs, un enfant sur 8, soit 12,5% des enfants admissibles à une éducation en français, fréquente un tel programme. La distance de l'école de langue française pèse aussi dans la balance. 90% des enfants hors Québec habite à moins de 15 km d'une telle école, mais plus la distance à parcourir pour s'y rendre est grande, moins les enfants d'ayant droit la fréquenteront. Ce qui est valable tant en milieu urbain que rural, précise Statistique Canada. La qualité de l'école, celle de l'infrastructure, les choix de cours, les sports, les activités parascolaires entrent aussi en compte, affirme Michel Landry. Statistique Canada ne mentionne pas ces facteurs, car le ministère ne peut pas s'appuyer sur les données du recensement pour ces aspects. C'est à l'échelle locale que ces facteurs jouent, mais les données locales ne sont pas encore sorties, explique la professeure. On sait qu'un enfant scolarisé en français aura plus de chances de poursuivre ses études dans cette langue, de la transmettre et de la parler au quotidien, à son travail. L'école est une institution centrale dans le fait de consolider l'apprentissage d'une langue, notamment dans une famille qui parle une autre langue, rappelle Michel Landry. Les données de Statistique Canada montrent aussi que le nombre de personnes qui utilisent régulièrement le français au travail hors Québec s'élève à 500 200. Il est difficile de comparer ce chiffre avec les données recueillies entre 2016 et 2021 parce que les questions du recensement n'étaient pas les mêmes. Cependant, les chiffres de Statistique Canada font tout de même voir que le taux d'utilisation du français au travail varie d'une région à l'autre. Pour l'ensemble du Canada, ce taux passe de 19,4 % à 19,9 %. Mais le Nouveau-Brunswick, le Québec et la région de la capitale nationale enregistrent des baisses de pourcentage. Les données sur l'instruction dans la langue minoritaire constituent une première. Elles seront importantes pour les parents et les conseils scolaires qui en ont besoin pour revendiquer de nouvelles écoles. Ça leur permet aussi de mieux planifier. Dans la Constitution canadienne, l'ajout d'écoles de langue française se faisait là où le nombre le justifie. Il fallait que les conseils montrent combien leur communauté comptait d'enfants admissibles. On faisait avec l'information qu'on avait, rapporte Michel Landry. L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit à l'instruction au primaire et au secondaire dans la langue officielle de la minorité, soit en anglais au Québec ou en français, dans les autres provinces et territoires du Canada. C'était un texte de Inès Lombardo, paru le 9 décembre 2022 dans le journal Le Franco.
La musique d'ici vit un âge de gloire. Il n'y en a jamais eu autant et pour tous les goûts, affirme Paul Pichet. Un texte de Cédric Bélanger, paru dans le Journal de Montréal de lundi 23 janvier 2023. Les années 1970, la grande époque de la musique québécoise. C'est un mythe, affirme Paul Pichet. À son avis, la chanson francophone d'ici n'a jamais été en aussi bonne santé artistique que maintenant. Je dirais même qu'on vit un âge de gloire, s'enflamme assis dans un restaurant du Vieux-Québec, celui qui nous a donné de grandes chansons comme « L'escalier » et des albums du calibre de « Sur le chemin des incendies ». L'enjeu, c'est la diffusion. Comme l'avait exprimé dans ce même journal Richard Séguin l'automne dernier, Paul Pichet est inquiet de l'avenir de la chanson francophone québécoise. Il pointe du doigt Internet, qui laisse peu de place à nos créateurs musicaux. « Il faudra qu'on s'ajuste », observe-t-il en lançant la balle dans la cour des politiciens. Ça ne l'empêche pas de poser un regard admiratif sur ce qu'il considère comme la plus belle cohorte de talents que le Québec a connue. Dans la chanson québécoise actuelle, quelque chose se passe. Il n'y en a jamais eu autant et pour tous les goûts. C'est toute une génération qui s'exprime. C'est bon en tabarouette, dit Paul Pichet. Même s'ils ont de la difficulté à être entendus sur les plateformes de streaming, ils ne croient pas que les artistes québécois sont boudés par le public. C'est même mieux que dans ce qu'on croit être le bon vieux temps, soutient l'auteur-compositeur-interprète de 69 ans. Avant ma gang des années 1970, les Gilles Vigneault et Félix Leclerc chantaient dans les petites places, dans les boîtes à chansons. Les vraies grosses affaires comme la Place des Arts, ils n'avaient pas accès à ça. Ils ont ouvert le chemin pour ma gang, et maintenant, on est rendu au Centre Vidéotron et au Centre Bell. Fier indépendantiste, Paul Pichet est persuadé que la plupart des artistes de la jeune génération rêvent que le Québec devienne un pays, bien que peu le disent ouvertement. Les artistes sont les porte-voix de nos émotions, de nos réalités, de nos contradictions, de nos préoccupations. Ils ne peuvent pas être le porte-voix de quelque chose qui n'est pas là, fait-il remarquer. Par contre, si la contradiction profonde du Canada, qui est d'essayer de nous faire disparaître, se représente, et elle va se représenter, ça va brasser. Tu vas voir, toute la gang va être là. La tournée 35e anniversaire de l'album « Sur le chemin des incendies » s'arrêtera au Théâtre Outremont de Montréal le 17 février et au Palais Montcalm le 12 mai. Toutes les autres dates sur paulpichet.net. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Paul Pichet n'a gagné qu'un seul Félix dans toute sa carrière, en 1985. Tout aussi incroyable est le sort qu'il lui a réservé. Il est où, ce Félix-là? En entendant cette question, somme toute banale, du représentant du journal, le visage de Paul Pichet se crispe. Je le dis-tu ou je le dis pas? Je ne l'ai jamais dit. Au bout de quelques secondes de réflexion, il accepte de répondre. Je l'ai jeté dans une chute à déchets un soir où j'étais saoul. J'avais un petit problème d'alcool, poursuit-il, et j'avais tout crissé par la fenêtre, des billets d'or et des disques d'or. Pour le Félix, j'avais quand même eu l'intelligence de réaliser que j'aurais pu tuer quelqu'un et je l'ai jeté dans la chute à déchets. A-t-il des regrets? Pas tant. Parce que je ne le méritais pas, dit-il en rappelant qu'il avait gagné le Félix de l'album rock de l'année pour un disque, Nouvelle d'Europe, qui n'était pas rock du tout. Normalement, j'aurais été dans la catégorie pop. Son équipe avait cependant jugé qu'il avait de meilleures chances de l'emporter dans la catégorie rock. Même s'il a obtenu plusieurs citations, Paul Piché n'a donc jamais remporté le moindre Félix pour ses plus importants albums. À qui appartient le beau temps? L'escalier et Sur le chemin des incendies. Il ne s'en formalise pas trop, mais trouve ça curieux. Je n'ai même pas gagné la découverte de l'année alors que j'étais dans les meilleurs vendeurs. C'est Fabien Thibault qui l'avait battu en 1979. Bon joueur, il dit comprendre et respecter les choix de la disque. Quand tu es un chanteur engagé politiquement, c'est polarisant. À un moment donné, j'ai compris que je n'étais pas un artiste qui allait gagner des Félix. Vous venez d'entendre lecture d'un article paru dans le Journal de Montréal sous le titre « La musique d'ici vit un âge de gloire. Il n'y en a jamais eu autant et pour tous les goûts », affirme Paul Piché. Ce texte est signé Cédric Bélanger. Il a été publié le 23 janvier 2023. Une PME québécoise ouvre une boutique sans employés. Un texte d'Annie Lafrance, paru dans Le Soleil du 24 janvier 2023. En entrant dans la boutique de luminaires authentiques, ce n'est pas tant l'éclairage ni les formes organiques des modèles qui retiennent l'attention des clients, c'est qu'il n'y a pas d'employés sur place. Basé à Cowansville, le fabricant de luminaires sur mesure vient d'ouvrir à Québec une boutique autonome libre-service qui est la première d'un concept qu'il souhaite implanter dans d'autres villes au Canada et aux États-Unis. Aménagé à l'intérieur du magasin Céramique Décor sur la 3e avenue, il s'agit en fait d'une boutique dans une boutique, Shop in Shop, précise Maude Rondeau, fondatrice et présidente de Luminaires Authentiques. C'est un concept novateur de boutique satellite qui nous permettra de prendre de l'expansion et de desservir de nouveaux marchés sans devoir embaucher de nouveaux employés, résume-t-elle. Semblable à une salle de montre, la suite peut être visitée sur rendez-vous ou non. Sur place, les différents modèles de luminaires, les échantillons de couleurs et les choix de matériaux sont exposés. Les clients peuvent déambuler à leur guise et scanner les codes QR pour connaître les prix de détail et les formats disponibles. S'ils hésitent, ils sont invités à texter un conseiller, lequel est basé au siège social, qui communiquera rapidement avec eux. L'autre option est de prendre, au préalable, un rendez-vous virtuel avec un designer d'éclairage de la compagnie qui les conseillera dans leur processus d'achat. C'est plus qu'un vendeur. Les clients ont ainsi accès à un professionnel du design qui pourra les guider tout au long de leur projet, poursuit Mme Rondeau. C'est une formule hybride qui déplace les rencontres virtuelles dans un lieu structuré plus concret afin que le client puisse toucher et voir les matériaux et les produits sur place, renchérit-elle. Il faut dire que la particularité des luminaires de la PME québécoise est qu'ils sont personnalisables et qu'ils sont fabriqués sur commande. Luminaires Authentiques propose plus de 2800 possibilités d'agencement, incluant 50 couleurs, indique-t-elle. Les luminaires sont ensuite fabriqués à la main à l'usine atelier de Cowansville. Dans les prochaines semaines, l'expérience du magasinage autonome sera bonifiée d'une application mobile qui est actuellement en développement. Celle-ci servira à faire l'accueil des clients et à compléter les transactions au besoin. La PME a développé ce concept de boutique libre-service qui lui permettra de conquérir de nouveaux marchés sans avoir à embaucher des designers sur place ni à les former. C'est une solution à la pénurie de personnel et aux difficultés de recrutement, lance la présidente. Avant de déployer à grande échelle son concept, la PME le teste d'abord à Québec pour prendre le pouls de la clientèle. Par la suite, d'autres boutiques satellites s'ajouteront, dont l'une sur la rive sud de Montréal et une autre à Laval. Elle compte également le propulser dans l'Ouest canadien et sur la côte est américaine, dans des villes comme Miami et New York. En s'installant à l'intérieur d'établissements réputés, l'entreprise souhaite également profiter de l'achalandage en magasin pour faire découvrir ses produits à un plus large public. Je me suis donné comme mission de fabriquer mes luminaires au Québec en encourageant les artisans d'ici et en faisant rouler l'économie locale, dit Maude Rondeau, qui a fondé Luminaire Authentique en 2015 dans son garage. Aujourd'hui, la PME emploie une cinquantaine d'employés. Pour Céramique Décor, c'est un partenariat gagnant-gagnant, estime la directrice générale Manon Routier. L'établissement spécialisé en produits de céramique et de robinetterie pour la cuisine et la salle de bain n'offrait pas de luminaire. C'est une gamme de produits qui complète bien notre offre et qui s'agence à notre style, dit-elle. Le vaste magasin, sur deux étages, est actuellement à reconfigurer son espace afin d'accueillir d'autres entreprises locataires. Une compagnie de comptoirs de pierre devrait d'ailleurs s'ajouter prochainement. C'est un concept d'affaires prometteur pour nous. On veut être une destination en décoration, ajoute la directrice générale. Le partenariat entre les deux entreprises se poursuivra également du côté de Cowansville puisque Céramique Décor prévoit aménager dans les locaux de Luminaire Authentique une petite salle de montre avec un employé sur place. C'était une PME québécoise ouvre une boutique sans employé. Un texte d'Annie Lafrance paru dans Le Soleil du 24 janvier 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Dominique Desrosiers et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer et Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.